Un instant. Il chuchote alors. Léa, je fais quoi? Mais c'est qui? Ben, elle veut les clés de chez Derek, elle dit qu'elle est sa fille. Ben, tu lui les donnes. Et si jamais c'est pas sa fille? Ah, oh, tu regardes trop de films. Mais si jamais c'est une cambrioleuse? Mais t'as déjà vu des nanas cambrioleuses? Non, mais si ça se trouve, on n'en a jamais vu parce qu'elles cambriolent mieux que les autres. C'est cela. Il presse l'ouvre-porte et dit à Claire de monter au deuxième. La jeune femme gravit les escaliers avec lenteur, les pieds lestés par 40 années de petits et grands drames qui s'entendent dans sa démarche lourde. Claire s'arrête sous le palier, essoufflée. « Désolée encore, l'hôpital m'a appelé, je dois déposer des affaires à mon père. J'avais ses clés, mais je ne les trouve plus et c'est assez urgent. » Antoine la dévisage. Claire a les yeux de son père, de minces fentes sur deux iris gris délavés. Le genre a l'air tragique en toutes circonstances. « Bonjour, là, salue Léa derrière la porte entrouverte. Mon ami est parti chercher la clé, ça va vous ?» Claire n'aperçoit qu'un morceau de frange blonde. « Ça va, ça pourrait être pire, comme tout le monde, je crois. » « C'est sûr. Merci, en tout cas, de lui avoir compagnie en attendant les secours. » « De rien, dit Léa. » « Il vous a dit quelque chose ?» « Non, il n'était plus trop capable de parler, je crois. L'ambulancier avait l'air très gentil, ça nous a rassurés. » « Ah, tant mieux. » Et puis. Je sais pas si vous avez vu, mais la situation s'améliore en Belgique. Le nombre d'hospitalisations est en diminution. C'est bien, c'est une bonne nouvelle. Ça veut dire que les choses sont sous contrôle, que les hôpitaux ne vont pas être surchargés, comme on le craignait. Enfin, je crois, ils vont bien pouvoir s'occuper de votre papa. Claire renifle. Oui, c'est bien. En même temps, j'ai lu que seuls 6% des contaminations avaient pu être testées dans le monde. Alors je pense qu'on n'en est pas sorti. Sans indiscrétion, vous devez lui apporter quoi? Ils ont besoin de quoi comme affaire les malades aux soins intensifs? De quoi se changer, rien de... Enfin, ça me regarde pas, c'est de la curiosité, ne dites rien. Antoine, tu trouves? Le jeune homme tend le bras à travers l'entrebâillement, il porte un masque avec un imprimé Snoopy qui lui étaffe la voix, il doit crier. Si vous avez besoin de quelque chose d'autre, vous savez où nous trouver, hein, et bien sûr, vous gardez les clés. Merci infiniment. Donnez-nous de ces nouvelles, si vous pouvez. Je vous tiendrai au courant, oui, quand je repasserai. Prenez soin de vous. C'est quoi ce « prenez soin de vous » rigola Léa, une fois la porte fermée. « Bah, c'est ce qu'on dit, non? Je la sens pas, cette bonne femme. » Antoine enchaîne. « Je vais finir par penser que tu sens personne, toi, surtout quand c'est une femme. Je ne suis pas une spécialiste, mais j'ai l'impression que les soins intensifs, c'est quand même un peu stérile comme zone. C'est pas là qu'on va déposer des pantoufles pleines de saloperies. »« Mais putain, t'as raison. Mais c'est toi qui m'as dit de lui ouvrir. Enfin, j'ai pas pensé, moi. » Ils écoutent la clé qui pivote dans la serrure du quatrième. Ils ne voient pas Claire prendre une grande respiration avant de découvrir le séjour. Ils ne savent pas que Derek, jusqu'au dernier moment, a nettoyé, épousté, tout briqué, comme s'il attendait de la visite, lui qui n'en recevait jamais. Ils ignorent ce que cherche Claire, et elle ne sait pas trop non plus à quoi ça ressemble. Un testament. Antoine et Léa ne peuvent qu'imaginer. Des plantes vertes, un trophée de culturisme sur une étagère, une grande photo de Claire posée sur un bureau, et cette photo existe en effet. Une petite fille avec des couettes et les deux incisives manquantes sur les genoux d'un homme au visage malheureux. Il ne voit pas Claire se regarder dans les yeux et sentir le poids du jugement dur d'une fillette s'abattre sur ses épaules, tandis qu'elle se détourne du cadre pour ouvrir un tiroir en quête de ce satané document. Ils n'auront pas la surprise de découvrir que c'est une lettre, en réalité, que Derek a laissée à sa fille. Lettre dont elle sortira sonnée à garde comme une ivrogne quand les lumières se rallument. Ils ne sauront pas pourquoi Claire quittera en larmes l'appartement, la rue, le quartier, pour ne jamais y revenir. Mais ils savent qu'on n'a qu'une seule chance sur deux de sortir de réanimation.
La première, 11h30, 13h, entrée sans frapper.
L'injuste destin du pangolin, le 23e jour. Mercredi 8 avril, 13h50, Claire rentre chez elle. Elle va se laver les mains dans la petite salle de bain attenante à la cuisine et qui sent plus la graisse à frites que le Tahiti douche. Elle frotte ses pauvres mains dont l'épiderme, à force d'être attaqué par le savon, est devenu sec et rêche, tellement rugueux que la peau aux jointures des doigts commence à craqueler, laissant apparaître de minuscules entailles où perlent des traces de sang. Elle pense qu'au sortir du confinement, les dermatologues vont se faire du blé. Eux et les psys, c'est le gros lot garanti. Son corps et ses mains tremblent encore un peu. Elle a peur que cet abruti de Michel lui fasse une nouvelle remarque sur sa consommation d'alcool, mais il est avachi sur le canapé devant une rediffusion d'affaires conclues, la main dans le jogging, son regard bovin hypnotisé par Sophie d'avant qu'il trouve à son goût. Donc Claire ne risque rien, et surtout pas qu'il la regarde. Les mains sous le robinet du lavabo, elle se dit qu'elle ne pourra jamais garder pour elle ce qu'elle vient de lire dans la lettre de son père. Elle se dit qu'en désespoir de cause, elle se confierait bien à Michel, qu'il serve au moins à ça. Et puis elle se ravise, elle pense qu'il est déjà bien difficile de livrer un secret. Alors livrer un secret à un con, c'est comme mettre des fleurs dans un vase sans eau. Ça ne sert à rien. Alors elle ravale sa peine, ferme le robinet, se sèche les mains qui lui font mal, et elle revient dans le salon en disant « Qu'est-ce qu'elle a encore vendu comme Kaamelott, ta chérie ?» Et Michel de répondre « Un genre de montre en bronze avec des dorures ou je sais pas. » Claire fond en larmes. Devant Sophie d'avant qui caresse du doigt la ligne d'une horloge rococo, elle murmure « Je ne veux plus qu'il meure. » Jeudi 9 avril. Dans l'appartement de Léa, Antoine est seul, Léa bosse. Il fait un peu de rangement. Quand on sonne, il voit sur l'écran de l'interphone le jeune ambulancier dont Léa lui a parlé. « Excusez-moi, monsieur, je m'appelle Julien, je suis l'ambulancier qui... »« Oui, je sais qui vous êtes, » l'arrête Antoine. « Je suis passé pour vous dire que votre voisin, celui du quatrième, il est mort ?»« Non, monsieur, pas encore, mais je voulais passer pour vous dire que la situation n'est pas bonne, voilà. Je connaissais pas vos rapports avec lui, mais si jamais, que vous puissiez vous préparer. »« Vous voulez, je sais pas, monter ?» demande Antoine. Quand Léa rentre du boulot, elle découvre Antoine et le jeune ambulancier en pleine discussion devant quatre canettes de bière, deux vides et deux à moitié pleines. Dans un mouvement de recul, paniquée, elle fouille dans son sac, trouve le masque qu'elle a porté toute la journée à la caisse de son Deleuze et essaye de le replacer sur son visage. Léa n'arrive pas à contenir sa peur et éclate. « Mais qu'est-ce qu'il fout là ? Mais il a eu la gentillesse de passer pour nous annoncer la nouvelle. L'état de Derek n'est pas bon. Mais raison de plus, il faut qu'il parte. Allez-vous-en, s'il vous plaît. » Julien se lève et dit qu'il allait justement partir. Antoine intervient. « Mais Léa, arrête, Julien est gentiment venu nous dire que... » Et elle crie. « Mais pourquoi tu l'as fait monter? Il transporte des malades toute la journée. Tu veux qu'on l'attrape? C'est ça? Ça t'a pas fini? T'as viré de l'autre fois? Qui t'a dit de le faire entrer? Mais putain, t'es débile ou quoi ?» Julien se dirige vers la porte et dit « Ne craignez rien, madame. Dans mon boulot, on est bien protégé. Mais ça ne veut rien dire. Partez maintenant. Je veux qu'il parte de chez moi. Calme-toi, Léa. T'es complètement hystérique. Ce garçon n'a rien. » Julien dit « Merci pour la bière. » Léa hurle « Mais foutez le camp !» Et Julien s'en va. Restés seuls, Léa et Antoine se regardent. Léa dit « J'en peux plus. » Et Antoine répond « Moi non plus. »
La première, 11h30, 13h, entrée sans frapper.
L'injuste destin du pangolin, le 24e jour. Dans la vie, rien ne se passe jamais comme prévu, sauf une seule chose. À la fin, la mort gagne, toujours. Derek avait planifié un certain nombre de choses dans sa vie et aucune d'entre elles n'avait obéi à sa volonté. Il avait prévu de gagner le Joe Wyders Olympia Weekend. Ça ne s'est pas passé comme ça. Il avait prévu d'avoir un destin hors du commun. Ça ne s'est pas passé comme ça. Il avait prévu de connaître un peu sa fille, de réparer ce qui pouvait l'être. Ça ne s'est pas passé comme ça. Il avait prévu d'aimer une femme, correctement. Ça ne s'est pas passé comme ça. Il avait prévu de vivre plus vieux que Big Ron. Ça ne se passera pas comme ça. Au service des soins intensifs, Derek est dans le coma. Il semble endormi, mais à l'intérieur, il comprend tout. Peut-être mieux que jamais. Il sait qu'il est sur le point de mourir. Là-dessus, il ne s'est pas fait d'illusions. Il n'était pas de taille à lutter contre le virus. Celui-ci était entré, s'était multiplié et avait terrassé le système immunitaire presque inexistant de Derek. Ça, il le savait dès le début. Il n'a pas peur. Il n'a pas mal. Il n'est même pas vraiment triste. Il est vexé. Vexé d'imaginer Big Ron confiné au bord de sa piscine dans sa villa californienne, le corps moins abîmé que le sien. Vexé de savoir que sa mort ne changera rien à la vie de son ancien rival, Big Ron ne se réjouira pas, Big Ron n'en saura même rien. Big Ron l'a déjà probablement oublié. La seule personne qu'on avertira sans doute quand il aura cessé de respirer d'ici quelques minutes, c'est sa fille, Claire. Tiens, peut-être que sur ce coup-là, les choses se passeront comme il l'avait prévu. Il y a 2 ans, il lui avait envoyé une lettre dans laquelle il avait glissé un double des clés de son appartement avec ce petit mot « Quand je mourrai, tu trouveras une enveloppe à ton nom, chez moi. » Il avait voulu ajouter quelque chose comme « Tu seras surprise » ou « J'espère que ça t'aidera », puis il avait renoncé Il s'agissait de sa mort, pas d'une bande-annonce. Claire non plus, elle n'était pas prévue. Derek ne sait pas exactement combien de fois il a fait l'amour dans sa vie, ni à combien de femmes. Ce qu'il sait, par contre, c'est que sa toute première fois a donné naissance à son unique enfant. Peu de gens savent ça. Si on pouvait, par exemple, numéroter nos coïts, ceux qui sont parents ne savent pas lequel a créé un nouvel être humain, le numéro 65, le 5438, on ne sait pas. Derek le sait. C'était le numéro 1. Il avait 14 ans et il avait fui cet enfant qui n'avait rien à faire dans sa vie. Il avait laissé sa petite amie Irina se débrouiller avec ça. Plus tard, il avait fui aux États-Unis. Et puis, il avait perdu 8 fois contre Big Ron. Et puis, il était tombé amoureux, vraiment amoureux. Elle s'appelait Kate et il avait voulu lui faire des enfants. Elle avait dit « D'accord, mais d'abord tu répares le passé ». Ça ressemblait à un plan, ça avait du sens. Alors ils étaient venus ici, à Bruxelles. Mais comme d'habitude, rien ne s'était déroulé comme prévu. Claire ne voulait pas entendre parler de lui et Kate s'était lassée de ce type encore jeune et pourtant déjà vieux, avec son corps et son passé fracassés. Derek avait compris le départ de Kate et il s'était dit qu'à sa place, il aurait fait pareil, que lui non plus n'avait pas envie de vivre avec lui-même. Mais par contre, lui... il n'avait pas le choix. Alors il avait fait la seule chose qui lui avait paru sensée, et peut-être la seule chose dont il était fier dans sa vie. Il avait décidé que puisque sa vie était ratée, autant faire en sorte qu'elle ne coûte rien et que son argent serve à sa fille. Parce qu'il en avait de l'argent. Il en avait beaucoup. Alors il avait pris ce petit appartement, compté chaque centime qui sortait pour ne pas dépenser ce qu'il considérait déjà comme l'argent de Claire. C'était ça qu'il expliquait dans cette enveloppe qui attendait chez lui et sur laquelle il avait écrit son nom, Claire. Et du fond de son coma, il trouvait une forme de consolation à penser que ce plan-là, au moins, allait se passer comme il l'avait prévu. Quelque chose a souri à l'intérieur de Derek Smensk ce vendredi 11 avril à 11h56, juste au moment où son cœur s'est arrêté.
La première, 11h30, 13h... Entrez sans frapper.
L'injuste destin du pangolin, vous le croyez ça, le 27e jour. Vendredi 11 avril à 11h56, le médecin a notifié le décès de Derek Smensk, né le 9 janvier 1965. Sa dépouille a été évacuée quelques minutes seulement après que son cœur eut arrêté de battre. Il est mort tout seul, dans une pièce blanche, sans fenêtre. On l'a enfermé dans un tiroir frigorifique et ce matin, lorsque les pompes funèbres sont venues chercher le corps, on ne l'a pas touché, on ne l'a pas déshabillé, on n'a pas fait sa toilette. On l'a laissé comme ça, comme il était mort, et on l'a étendu dans un cercueil bon marché. Aujourd'hui, lundi 13 avril, à 14h, il sera incinéré, tout seul, sans amis autour, sans famille, sans un discours, sans un poème, sans une chanson, sans rien, que la chaleur des flammes brûlée, c'est tout. Après 4 semaines de confinement, le couple du rez-de-chaussée fait une partie de Trivial Pursuit. Ils jouent avec application, sans échanger le moindre mot. On peut aussi être seul quand on est deux. Au premier étage, Lydia a réapparu ce week-end, elle prend un bain tiède, les manifs lui manquent, retrouver ses amis en tête de cortège, la meute qu'elle s'est choisie pour survivre. Elle croit au pouvoir de la contestation, mais plus encore à celui du groupe. Elle le sait, seule, on ne va pas bien loin. Au deuxième, Léa lit un roman, Antoine fait la vaisselle. Chacun dans son coin. Il semble indépendant, c'est de là surtout elle, qui crâne devant ses copines en racontant ses rendez-vous Tinder, alors qu'au fond, elle voudrait construire un nid, comme tout le monde. Trop consciente, à 30 ans seulement, d'être déjà seule au monde. Au troisième, Maria se réjouissait des vacances de Pâques et de ne plus devoir cumuler le télétravail et l'école à la maison avec son ado, mais la gamine est insupportable et il n'y a pas de père chez qui l'envoyer. Elle remplit des papiers, à côté de la question « situation familiale », elle coche « isolée ». Au quatrième, l'appartement est silencieux, Derek ne reviendra plus. Il a vécu seul, il est mort seul, à part admirer une belle constance. Il n'y a rien à tirer de cette histoire. À 2 blocs de là, Julien, l'ambulancier, s'est réveillé de bonne heure. En marchant vers l'hôpital, il a appelé sa mère. « Ça va, tu tiens le coup ?» il lui a dit. Elle a répondu « Tu sais, depuis tout ce temps, j'ai l'habitude d'être seule. » Et puis, il y a ce médecin qui, vendredi, a notifié la mort de Derek Il s'appelle Ousmane Dembé, il a 44 ans. Pour protéger sa famille, il ne rentre plus chez lui depuis 4 semaines, préférant loger dans un minuscule appartement prêté par un collègue. Ce matin, il a perdu un autre patient. Il fait ce qu'il peut, mais au final, il assiste au déluge, impuissant. Pas assez de personnel, pas assez de blouses, pas assez de masques. Il a l'impression, lui aussi, d'avoir été abandonné. Et puis, il y a Claire, qui ce week-end a planqué l'enveloppe avec l'argent de son père dans le double fond d'une valise. Elle a ensuite entassé quelques vêtements et a dit à Michel « Je ne te supporte plus, mon vieux, je me barre, je préfère être seul qu'avec un homme comme toi. » Nous sommes seuls au monde. C'est vrai. Chacun à notre façon, enfermés dans nos carcasses, isolés sous notre peau, abandonnés à nous-mêmes, c'est notre croix. Mais là, juste à côté, il y a les autres. Ils habitent à l'étage du dessus ou à 2 blocs de chez nous. Ils sont de l'autre côté d'une application de rencontre où ils travaillent dans l'hôpital le plus proche. Ils sont là. Voilà ce qu'il faudra retirer de tout cela, que c'est la plus belle chose du monde, les autres. Claire est au volant de sa voiture. Elle ne pourra probablement pas entrer au crématorium. Mais elle veut au moins apercevoir le cercueil de ce père qu'elle a manqué. Elle allume la radio, un synthétiseur, une basse. Elle se dit, dans quelques semaines, nous agrégerons à nouveau nos solitudes et rien ne pourra gâcher l'instant fragile de nos retrouvailles.
La première, 11h30, 13h, entrée sans frapper.
L'injuste destin du pangolin, le 28e jour. Je m'appelle Diogène Lébény. Je suis facteur. Je n'ai pas vraiment choisi ce boulot. Disons qu'il s'est présenté à moi et que je l'ai saisi. J'ai le dos de plus en plus cassé. Le soir, quand je rentre chez moi, je demande à ma femme de me masser les lombaires, tâche à laquelle elle se prête de mauvaise grâce, mais sans protester. Car elle sait que si elle ne me malaxe pas là, tout en bas, je vais passer 20 minutes à gémir toutes sortes de bondieuseries tellement j'ai mal. Je pourrais culpabiliser de l'obliger à me pétrir alors qu'elle-même est hébétée de fatigue. Mais depuis quelque temps, je dois confesser que ça m'est un peu égal. Dana est institutrice. Elle donne des exercices à distance à ses élèves. Je veux bien concevoir que c'est du travail, mais elle au moins, elle est peinard à la maison. Tandis que moi, depuis 2 ou 3 mois, les lettres ont pratiquement disparu de nos missions. Ce que nous livrons, ce sont des colis de plus en plus lourds à mesure que le confinement s'enlise. Des sacs de croquettes pour chiens de 20 kilos, des bacs à compost, des télévisions par dizaines. Je crois que les gens commencent à prendre conscience qu'ils vont devoir passer encore un peu de temps à la maison. J'en ai plein le dos. Et je ne suis pas à l'aise avec ces paquets venus d'un peu partout dans le monde. D'Italie, de 20 000 morts, des États-Unis, 22 000 morts, ou de Chine, 3 339 morts, mon cul. On ne sait pas combien de temps le virus peut vivre sur du carton. On ne sait rien de cette merde. En fait, j'en prends conscience tous les soirs devant le JT, encore 303 morts chez nous, rien qu'hier. Je porte des gants qui me font transpirer et j'ai du mal à respirer avec mon masque. Je l'ai fabriqué avec un bandana, mais j'ai surtout l'impression que ça ne fait que boucler en circuit fermé les éventuelles crasses qui pourraient sortir de ma bouche. Ce matin, je suis passé au 72 rue de la Tulipe. Un immeuble de 5 étages, sans ascenseur, avec un escalier en colimaçon taillé aux dimensions des hommes de son année de construction. La croix de ma tournée. Au rez-de-chaussée, j'ai déposé des box repas sur le paillasson, des trucs de bobo où ils te mettent tous les ingrédients déjà lavés, découpés qu'il te reste à cuire et à accommoder. Pendant quelques semaines, les gens avaient pris goût à la cuisine, redécouvert leurs économes et leurs casseroles. Maintenant, tu assistes à des embouteillages de scooters Domino Pizza, les soi-disant gourmets. Ça ne les a pas amusés longtemps de passer 3 heures par jour à jouer les commis derrière les fourneaux. Au premier, la rousse recevait du tissu et des élastiques. C'est ce qu'elle m'a dit. Elle coud des masques pour ses amis et quelques soignants des environs. Elle m'a montré le coupon de wax qu'elle avait commandé du Cameroun, croyant, je suppose, créer une complicité. Mais moi, je suis ivoirien et je me fous pas mal du Cameroun. Sans compter qu'à mon avis, respirer à travers du wax, ça doit être comme se mettre un sac plastique sur la tête. C'est un peu le principe du wax, hein, l'étanchéité. La rousse m'a donné un pourboire. Elle était sympa, je lui ai dit « prenez soin de vous », comme on entend partout. Au deuxième étage, il y avait un couple de petits jeunes, mignons, à l'air crevé. Un paquet Amazon indéterminé, des livres sans doute. Je n'ai plus lu depuis, mais ai-je seulement lu un jour. Le soir après le JT et avant le massage, je regarde la Casa de Papel. C'est con, mais ça me détend. Le dernier épisode était gros comme une maison avec une opération du poumon guidée à distance par faisceau satellite. Est-ce qu'on en sera bientôt là, nous aussi? Je peux à peine m'enlever une écharde sans tourner de l'œil. Pas de livraison pour le troisième. À travers le mur duquel des vociférations d'adolescentes se déversaient sur le palier, Dana et moi avons longtemps été désespérés que le Seigneur ne daigne nous accorder le bonheur de la famille. Aujourd'hui, je dois reconnaître que ça tombe plutôt bien. J'ai sonné au quatrième. Personne n'a répondu. Alors j'ai glissé la lettre sous la porte. De toute façon, c'était un retour à l'expéditeur d'un courrier qui avait été adressé à une certaine Claire. Pas besoin de réveiller le bonhomme pour si peu. Smensk. J'ai connu, moi, un lutteur qui s'appelait Smensk quand j'avais encore le temps de m'intéresser à ce genre de truc. Le mec doit péter la forme avec tout l'entraînement qu'il s'est infligé. Moi, depuis 2 jours, je sens quelque chose qui m'oppresse au niveau de la poitrine. C'est peut-être le Covid, ou c'est peut-être la mort d'Adil, ce jeune d'Anderlecht tué en fuyant un contrôle de police. J'aurais bien besoin d'une bonne nouvelle, et c'est pas l'annonce de la réouverture des écoles le 11 mai en France par Macron qui est de nature à m'apaiser. Ça sent la deuxième vague à plein nez, cette connerie. Mais Nairobi a survécu à son opération dans la Casa de Papel. C'est déjà ça.
La première, 11h30, 13h, entrée sans frapper.
L'injuste destin du pangolin, le 29e jour. Mardi 14 avril, Claire remonte la rue de la Tulipe à toute vitesse, un peu comme si la police allait lui dire qu'elle n'avait rien à faire là. En marchant, elle voit Léa qui sort de l'immeuble où vivait son père et où elle se rend.